Oui, alors celle-ci, je vous l'ai bien envoyée il y a 12 jours. Maintenant, ce sera 10 jours à l'avenir. Donc, monsieur le maire, le 10 novembre dernier, alerté par des riverains du chantier Huron, je me suis déplacé sur site afin de constater la coupe et l'abattage en cours de trois des grands arbres qui longent l'île au niveau de la passerelle qui mène à la villa. Les deux premiers arbres étaient déjà très attaqués, le troisième un peu moins à ce stade. Je vous en ai immédiatement informé, vous m'avez d'ailleurs rejoint sur site quelques minutes plus tard. Vous avez constaté alors les dégâts et ordonné l'arrêt immédiat de cet abattage. Vous m'avez confirmé ensuite que le permis de construire autorise bien l'abattage du premier des arbres, mais uniquement du premier. Or, le mardi 1er décembre, un nouvel appel m'informe que l'abattage a repris. Je retourne donc sur site et constate que le premier et le deuxième arbre viennent d'être abattus. Nous sommes nombreux à déplorer que ce permis de construire ait été signé en l'état et autorise la construction d'un immeuble aussi près de la rive et condamne de fait un arbre. Et nous sommes contraints de constater que le promoteur, une fois de plus, ne respecte pas le permis de construire. Une fois de plus, le mal est fait. Quelle sanction comptez-vous prendre à l'encontre de ce promoteur? Par ailleurs, sauf erreur de ma part, la parcelle de terrain longeant la rive a été cédée à la ville pour permettre la création d'une continuité de la piste piétonne cycliste jusqu'au Muléguel. L'alignement d'arbres est-il sur cette parcelle rétrocédée ou sur le terrain privé du promoteur? Le promoteur a-t-il abattu un arbre situé sur le domaine public? Nous vous demandons, monsieur le maire, de prendre les sanctions les plus dures, car il est intolérable que les promoteurs s'arrogent le droit, de façon régulière et répétée, de détruire le patrimoine naturel de notre ville en contrevenant aux règles qui s'imposent à eux. Je vous remercie.
Merci, madame Gendreau. Et du coup, c'est mon collègue Philippe Haas qui va vous répondre.
Oui, merci, monsieur le maire. Madame Gendreau, vous nous avez fait part de votre indignation suite à l'abattage de ces trois arbres. C'est une indignation que nous partageons. Nous avons procédé à l'enquête pour faire le service, pour vérifier les points techniques précis de ce chantier. Et je vais être un petit peu long, mais il faut rentrer un peu dans la technique pour comprendre. Alors, premier sujet, le permis de construire qui a été accordé en ce temps par l'ancienne municipalité ne donne aucune précision en matière de conservation ou d'abattage des arbres en question. De plus, ces arbres se trouvent aujourd'hui sur le terrain appartenant au promoteur Stradine. Ils ne sont pas inscrits dans le PLU en alignement d'arbres à conserver. Deuxièmement, la situation de ces platanes avant tous travaux n'était ni dangereux ni malade. Il n'y avait donc aucune raison sanitaire. Ces platanes étaient encore en période de croissance et leur envergure doit atteindre 22 mètres quand ils sont grands. La proximité de la construction, moins de 2 mètres des arbres, et l'emprise du chantier avec le positionnement de la crue et la circulation des engins de chantier entraînaient inexorablement la nécessité de les abattre. Bien plus, les travaux de terrassement se sont déroulés à moins de 1 mètre des premiers arbres sur une profondeur de 3 mètres. Ces travaux de terrassement ont conduit à l'arrachage d'une très forte proportion des racines d'ancrage des arbres et les rendaient en conséquence dangereux, notamment en cas de vent fort, ce qui n'était pas le cas, je rappelle, avant le début des travaux. Et c'est bien les travaux de ce chantier qui ont rendu ces arbres fragiles. Pour terminer, sur ces points techniques du chantier, sur le sujet de la propriété des terrains que vous évoquez dans votre question, et donc de l'alignement d'arbres, une partie des arbres se trouve aujourd'hui sur la propriété Stradine, comme d'ailleurs l'extrémité de la passerelle qui accède à la villa, ce qui semble-t-il était vu à l'époque entre la ville et Huron. L'autre partie de l'alignement se situe sur un terrain appartenant à la région. La rétrocession de cette bande de terrain en ville à l'Euro-Métropole n'est pas réalisée. Quant aux sanctions que vous nous demandez de prendre vis-à-vis du promoteur, et qu'on aurait bien prises, elles ne sont pas possibles, car elles ne reposent malheureusement sur aucun fondement juridique, au vu de l'absence de toute précision dans le permis de construire sur le devenir de ces arbres et de la propriété actuelle des terrains. prévu dans le permis de construire. Avec M. le maire et les services, nous avons rencontré dernièrement les dirigeants de Strasbourg pour évoquer avec eux les aménagements de ces abords et bien sûr aussi travailler de ces arbres. Alors, premièrement, la piste cyclable envisagée le long des platanes pourrait se transformer en voie douce piéton cycle pour éviter de porter atteinte à l'intégrité des arbres. Parce qu'après discussion avec les services des espaces verts, si on commence à creuser pour faire une voie cyclable, une piste cyclable traditionnelle, on créerait les mêmes problèmes d'atteinte aux racines des arbres, puisque tout ça, il y a très peu d'espace entre le bâtiment et l'alignement d'arbres. Deuxième sujet, des réflexions sont engagées par le service des espaces verts David Wittrich en Australie sur l'aménagement du parc central de l'ensemble de l'opération qui sera ouvert au public. Enfin, Stradim s'est d'ores et déjà engagé à planter au moins 6 arbres d'une essence choisie par le service des espaces verts au parc Fidèle en compensation de ceux qui ont été abattus. Ça ne fait pas revivre ceux qui sont tombés, mais voilà. En conclusion, nous déplorons, comme vous, Madame Landreau, l'abattage de vos platanes. Cet abattage est encore une conséquence subie du permis de construire délivré par la précédente. Voilà. Merci.
Merci, Monsieur Haas. Monsieur Froli, du coup, vous voulez intervenir ?
Simplement, malgré toute l'amitié que je porte à Philippe Haas, on se connaît depuis longtemps, je trouve qu'il est facile aujourd'hui de se défausser sur la municipalité précédente. Je trouve que dans d'autres dossiers, on arrive à refuser des permis. Je trouve que vous êtes là maintenant depuis 6 mois, il faut aussi assumer vos responsabilités et interdire l'abattage de ces arbres. C'est sur place pour les interdire. Il faut suivre. Il faut suivre les dossiers qui ont été abattus. Ce n'est pas de la faute de la municipalité précédente. On peut discuter avec les promoteurs immobiliers, Kralim comme d'autres. Et donc, je regrette, Philippe, si vous n'avez pas été sur le terrain, vous n'avez pas été. Il ne faut pas venir quand l'arbre est abattu, il faut discuter avant. Donc, je trouve que c'est trop facile et je réfute totalement ces responsabilités. Il faut assumer aujourd'hui que vous êtes aux commandes et assumer. Vous êtes arrivé à modifier d'autres permis de construire, essayer dans ce type de situation aussi d'être proactif.
Oui, monsieur Haas.
Oui, je vais répondre tout de suite à M. Frelli. Je n'ai pas fait les détails de l'ensemble de ce qui s'est passé. Je sais que vous étiez sur le terrain au printemps, quand nous n'étions pas encore élus, et que vous aviez autorisé, du moins c'est ce que m'ont dit les espaces verts, l'abattage du premier arbre. Nous dire ensuite.
Écoutez, c'est M. Haas qui répond. Donc.
Nous dire ensuite, M. Frelli, que nous devons assumer le fait que vous ayez autorisé. Que nous devons assumer, M. Freudy, le fait que vous, l'ancienne municipalité, avez autorisé de construire un bâtiment aussi près des arbres d'alignement, parce que c'est ça le vrai problème.
Vous étiez à la commission.
Non, mais monsieur Froli, vous n'avez pas la parole. Laissez M. Haas répondre.
Nous dire qu'aujourd'hui, nous devons assumer ce fait, je trouve ça particulièrement déplorable, pas utile des autres termes. Voilà, c'est tout ce que je vais répondre, parce que nous n'étions pas à la manette.
Merci, monsieur Haas. Effectivement, pour avoir suivi quand même le dossier et avoir été sur le terrain et rencontrer plusieurs fois Stradim, et pas forcément de manière tout à fait chaleureuse à toutes les fois qu'on a pu se voir, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de manquements qui avaient été manifestes, notamment pendant le premier confinement, et on sait les nuisances que ça a engendré pour les riverains là-bas. Et l'arbre avait été déjà convenu d'être abattu par l'ancienne équipe, hein, et nous avons des éléments factuels qui le prouvent, donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de vouloir hurler alors qu'il y a une réalité. Nous essayons de modifier autant que faire se peut un certain nombre de permis qui ont été déposés proches des élections parce que nous sommes dans des délais réglementaires qui nous permettent de le faire. Mais bien évidemment, sur d'autres sujets sur lesquels les permis ont été purgés et de tout recours, nous sommes quand même un petit peu bloqués à la bonne volonté des promoteurs. Alors bien évidemment, nous prenons des pénalités, nous faisons le nécessaire pour justement que ces personnes réparent. Monsieur Haas a cité un certain nombre de contreparties que Stradim va être obligé de mettre en œuvre. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, si on prend un plan purement juridique, il n'y avait pas eu d'inscription nulle part de la conservation de ces arbres, ce qui ne nous permet pas d'aller sur un terrain juridique. Donc, comme Stradim est en train de développer cette résidence et qu'ils ont besoin quand même du concours de la ville pour un certain nombre d'aménagements, il est tout à fait normal que nous mettions un certain nombre de contreparties supplémentaires pour que le concours de la ville soit effectif et que nous ne bloquions pas l'opération, puisque ça serait quand même une de nos possibilités si jamais les choses n'étaient pas rétablies et les arbres pas plantés. Nous pourrions bloquer quand même sur un certain nombre de plans et justement faire que le promoteur ne puisse pas forcément aller au bout de son opération dans l'état imparti et que ça lui coûte quand même un petit peu d'argent. Et en général, quand il est question d'argent pour un promoteur, on arrive toujours à planter beaucoup d'arbres. Donc, en tous les cas, on va suivre ce dossier très finement, hein, comme on a pu le faire sur d'autres dossiers. Hein. Je sais qu'on avait arrêté un permis sur des jardins, on a demandé une modification d'un permis dans le secteur Baguerzé parce que c'était du R+4, on s'était engagé sur du R+3. Donc, on le fait à chaque fois qu'on peut le faire. On est en train de le faire aussi par rapport à un permis rue Charles Brouwer. Voilà, quand il y a des choses qui sont incohérentes et qui ne s'inscrivent pas, on vient rediscuter avec les promoteurs. On l'avait eu l'occasion de le dire avec mon collègue Philippe Haas. Ce que nous essayons de faire, c'est que nous ayons un développement harmonieux de la ville. Le but, ce n'est pas de passer d'un développement à plus de développement du tout. C'est d'avoir un développement, mais qui soit vraiment harmonieux et qui ne soit pas au mépris, justement, de paysages remarquables que nous pouvons avoir dans notre ville ou de surdensification dans des secteurs qui sont beaucoup moins densifiés. Donc voilà un petit peu pour cette réponse à cette question. Et sans plus tarder, nous passons du coup à la question de M. Froli d'actualité sur Huawei.
Merci, M. le maire. Donc, je voudrais simplement rappeler pour cet arbre que je n'ai jamais donné en ce qui me concerne l'autorisation. Et je réduis totalement cette autorisation. Voilà, j'espère que sur mon intervention, vous n'allez pas encore dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, pour l'organiser, c'est la faute des prédécesseurs. Là, pour. L'implantation de l'usine Huawei, je voulais vous dire que je suis profondément choqué par cette annonce. Ce matin, on constate que nous perdons 500 emplois potentiels sur une ville qui a passé dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine de la fabrication de portables, de téléphones, qui a un gros passé, qui a des compétences techniques. Nous avons ici un niveau d'emploi, de compétences dans ce domaine très élevé. Aussi, je suis très étonné que nous ayons laissé échapper ce dossier qui, il y a 6 mois, il me semblait, était tout à fait dans la meilleure position. Alors, vous dites aujourd'hui que vous avez manqué de soutien au niveau de l'aéro-métropole. Lesquels ? Parce que je sais quand même maintenant que vous faites partie de l'exécutif. Vous avez une délégation importante de prévention des risques, de prévention des sinistres, de prévention de tous les problèmes qui peuvent arriver au niveau d'autres villes. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous reportez maintenant cette responsabilité de nouveau au niveau de l'Eurométropole. Vous dites que c'est un échec de la politique d'attractivité. Voilà, je ne comprends pas pourquoi, sur ce dossier, vous n'assumez pas la responsabilité en disant qu'ils ont choisi autre chose et dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Moi, je déplore. Je voudrais, au nom de mon groupe, dire que nous déplorons pour une ville qui a aujourd'hui une attractivité énorme, avec 17 000 emplois, dont 7 à 8 000 sur le parc d'innovation, vous n'êtes pas non plus sur ce dossier-là. Vous n'avez pas dialogué, vous n'avez jamais demandé ce qui s'est passé jusqu'à présent, quelles étaient les relations que nous avions, quelles étaient les attentes que nous avions, quelles étaient les discussions que nous avons eues avec les dirigeants de Huawei France. Je le regrette, ce Philippe, s'il faut assumer que dans cette affaire-là, on n'a pas été bon. Voilà, c'est tout. Ça arrive, mais il ne faut pas tout le temps rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Nous avons ici, aujourd'hui, un gros échec et je le regrette profondément.
Merci, Monsieur Froli. Au moins, ça permettra quand même de répondre précisément sur le dossier Huawei, parce que, comme j'ai pu le dire, hein, je m'y suis investi matin, midi et soir, et de très nombreuses heures. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de présentations, à la fois avec les dirigeants français, les dirigeants chinois, avec différents consultants qui sont venus aussi voir. Et malheureusement, c'est vrai que le choix s'est porté sur la communauté d'agglomération d'Haguenau, en la commune de Brumath. Alors, il y a différents éléments qu'il faut voir. Il y a d'abord les éléments techniques par rapport au terrain qui était proposé au parc d'innovation. Dans la réponse qui nous a été adressée et qui est passée par la présidente de l'Eurométropole, les éléments techniques sont quand même assez importants. J'ai eu l'occasion de le dire, un des premiers éléments et un des premiers freins de l'implantation de Huawei au sein du parc d'innovation, c'était la géothermie profonde qui leur faisait affreusement peur. Il faut savoir que dès le départ, quand on les a rencontrés, notamment avec la CERS, qui exploite aujourd'hui le parc d'innovation, ils nous ont demandé s'ils pouvaient construire un talus pour pouvoir se cacher de la centrale géothermique. Ils avaient vraiment très peur de la géothermie profonde, qui est une technologie qui ne semble pas vraiment beaucoup maîtrisée. Et surtout, je pense que les événements récents qui ont eu dans le nord de la métropole n'ont pas été de nature à les rassurer sur la centrale géothermique qui se retrouvait à proximité et qui, pour le moment, est suspendue, mais pas forcément arrêtée. Donc il y avait vraiment cet élément. Il y avait un élément technique aussi par rapport à la viabilisation de la zone sud. Vous savez très bien qu'il y a un retard conséquent de la part de la CERS dans la commercialisation et la viabilisation du parc d'innovation. Ça fait plusieurs années que rien n'a été fait au parc d'innovation. Nous sommes en train d'essayer de rattraper le retard puisque l'échéance du contrat de concession de 39 ans qui avait été confié à la CERS à l'époque va arriver à échéance en 2024, ce qui fait que ce contrat arrivant à échéance, l'Eurométropole de Strasbourg va récupérer un certain nombre d'impacts financiers. L'Eurométropole va récupérer toute la dette générée par les trois bioparcs, puisque les bioparcs sont des incubateurs pour des laboratoires qui leur permettent de grandir, mais le problème c'est qu'aujourd'hui ça génère du déficit, c'est plusieurs millions d'euros. Il y a des dettes contractées aussi sur un certain nombre d'investissements, mais il y a surtout le manque de commercialisation et l'Eurométropole va devoir payer des contreparties quand même très importantes parce que toute la partie sud aujourd'hui n'est pas commercialisée. Alors moi j'ai pris le dossier à bras le corps, hein, j'ai fait tout, j'ai fait le VRP de la ville, j'aurais justement montré tous les atouts, toutes les possibilités. On a négocié fortement aussi au niveau de la métropole pour essayer d'améliorer la desserte en transport en commun du parc d'innovation, avec un certain nombre d'investissements, notamment sur le cyclable, l'investissement possible d'un tram prolongé jusqu'au niveau du boulevard Sébastien Brandt. Donc il y avait plusieurs choses qui étaient envisagées. La seule problématique, c'est que comme nous sommes arrivés quand même dans un dossier qui était assez avancé et finalement un parc d'innovation qui était assez freiné dans son développement, il y avait un problème de temporalité par rapport à l'urgence que souhaitait mettre Huawei. Et ensuite, il y a eu, et c'est pour ça que j'en ai parlé, un échec de la politique d'attractivité de la métropole qui aujourd'hui, on peut le dire, a pu faire par certains des élus strasbourgeois quand même la fine bouche. Je pense que la maire de Strasbourg n'a pas aidé du tout dans le dossier, hein, il faut quand même le souligner. La maire de Strasbourg a passé son temps à parler des dangers de la 5G, à parler de la mauvaise réputation de Huawei, à demander des garanties sans cesse. Et donc, quand on a des élus sur le banc de Brumath et dans la communauté d'agglomération qui travaillent en partenariat, qui travaillent ensemble, qui font le nécessaire et qui, dès le premier conseil d'agglomération, passent tout de suite une délibération pour vendre le terrain, alors que nous, on est encore en train de se poser la question de savoir si on veut ou pas accueillir Huawei au parc d'innovation, bah, je comprends que Huawei aujourd'hui ait préféré Brumath au parc d'innovation. Et malheureusement, c'est un vrai problème pour nous parce que, comme le parc d'innovation est de compétence métropolitaine et géré par la CERS, aujourd'hui nous n'avons pas la pleine mesure et la pleine capacité à choisir nous-mêmes en tant que ville d'Ilkirch d'avoir l'implantation ou non d'une entreprise. Et donc nous sommes toujours subordonnés à un certain nombre de choix, à un certain nombre de volontés. La présidente de la métropole s'est portée plutôt favorable sur ce dossier. Les maires autour de la métropole, des communes de la métropole, se sont portés plutôt favorables. Mais les élus écologistes strasbourgeois se sont montrés tout à fait réticents, ont manifesté à plusieurs reprises publiquement leur réticence. Et vous savez bien aussi que dans ce genre de dossier, dans les négociations, bah forcément, une entreprise qui investit 200 millions d'euros préfère venir dans un territoire où elle est certaine qu'elle sera accompagnée, qu'elle sera aidée,
plutôt que dans un territoire où elle ne se sent pas forcément très bien accueillie, ou en tout cas pas unanimement accueillie. Et je rajouterai encore une dernière chose qui est un élément qui est vraiment inquiétant et qui doit nous interpeller dans nos négociations avec la métropole sur ce sujet et dans le comité de pilotage du parc d'innovation, c'est le prix du foncier au niveau du parc d'innovation qui est bien plus cher que dans toutes les autres zones d'activité. Alors, je ne parle même pas de Brumath, mais là, par exemple, sur le terrain que nous proposions au parc d'innovation, le terrain par la métropole était proposé à 4 millions d'euros. Donc ça faisait 1 million presque de différentiel par rapport au prix du foncier qui était proposé à Brumath. Donc il y a quand même un grand questionnement. À Brumath, il n'y avait pas la géothermie, mais il y avait une ligne à haute tension. La communauté d'agglomération a accepté de faire un certain nombre d'aménagements pour la ligne à haute tension. Donc voilà, vous voyez bien qu'on n'a quand même pas forcément eu le terrain le plus favorable pour réussir cette implantation. Néanmoins, nous sommes en train de travailler sérieusement sur le parc d'innovation avec la viabilisation du secteur sud, avec la modification du PLU pour pouvoir commercialiser plus rapidement, le changement de l'éclairage public, la réalisation des pistes cyclables. Enfin voilà, parce que si nous ne faisons pas ces investissements au sein du parc d'innovation, demain on n'arrivera pas à attirer des entreprises de façon certaine et elles iront plutôt à Brumath, aux portes de la métropole, plutôt qu'au sein de la métropole. Oui, monsieur Froli.
Si vous permettez une petite réponse, monsieur le maire. Donc, si j'ai bien compris, c'est la faute du maire de Strasbourg. Je ne vois pas en quoi le maire de Strasbourg pourrait avoir une quelconque influence sur notre ville. Nous sommes maîtres chez nous et vous faites partie aussi de l'exécutif strasbourgeois de l'Eurométropole. Donc, il me semble que c'est l'Eurométropole avec la ville d'Ikirch qui doit décider. Mais je ne suis plus commande, donc ce n'est pas moi qui ai négocié ce dossier. Je voudrais dire que le maire de Strasbourg a posé une question claire de la nocivité éventuelle de la 5G. Je crois qu'il n'y a rien de mal à poser cette question, mais comme je l'ai écrit dans une tribune, il faut totalement séparer les deux problèmes, l'implantation d'une usine de fabrication de portables et la nocivité de la 5G. La 5G s'est développée déjà partout, dans d'autres départements, dans d'autres villes. Donc c'est un problème totalement différent. Ne confondez pas les deux. Et puis, pour en finir, M. Philippe, s'il y a quelque chose que nous n'avons plus jamais, M. le maire, quelque chose que nous n'avons plus jamais abordé ensemble depuis un bout de temps, vous ne pensez pas que la décision du gouvernement Édouard Philippe et de la ministre de la Justice, Mme Belloubet, de vouloir implanter sur ce site une prison, un centre pénitentiaire. Vous ne pensez pas que ça jouait aussi? Moi, je crois qu'il faut qu'on le reconnaisse, que ça a été un mauvais coup, ça a été une mauvaise idée sur un site d'implantation industrielle et commerciale. Ça a été un mauvais coup sur ce site. Non, je crois que il faut que chacun, on assume nos responsabilités. Dans ce dossier-là, on a perdu, vous avez perdu, parce que les autres ont été plus convaincants, parce que leur projet était meilleur. Donc, il ne faut pas, dans ce dossier-là, se dérober. Nous avons perdu, reconnaissez-le. Je vous laisse tout simplement, ici, ce matin, vous le dire. On en trouvera d'autres, on gagnera d'autres projets, on réussira ailleurs. Et puis, je vous avais aussi suggéré, mais comme vous ne souhaitez pas qu'on en parle, je vous avais aussi suggéré de leur proposer de nouveau le site Alcatel, qui était un site qui était peut-être moins cher que de prendre quelques hectares du parc d'innovation en terre agricole, que par ailleurs vous ne vouliez plus construire. Tout cela, on n'en a pas discuté, vous avez voulu faire cavalier seul, vous étiez sûr de gagner dans cette affaire-là. Je vous ai vu aussi aux côtés de madame la présidente de l'Eurométropole, très avancée, vous étiez sûr qu'on allait gagner. Et puis, on a un échec, il faut le reconnaître. Et puis, je souhaite que pour Ilkirch, qu'il y ait d'autres implantations de ce type qui puissent venir chez nous, parce qu'on en a besoin pour notre prospérité, pour pouvoir construire des logements, pour développer des services. Il faut aussi des industries, il faut du commerce, c'est un tout, je l'avais expliqué. Voilà, je ne vous reproche rien, je vous demande simplement de le reconnaître. Je vous remercie de m'avoir écouté, monsieur le maire, et de m'avoir donné la parole.
Merci, monsieur Froli. Alors, par rapport au site, il faut quand même savoir que Moi, j'ai eu toute l'étude des 10 sites qui ont été faits en Alsace. Et il n'y avait que 4 sites qui avaient été retenus dans ces 10 sites. Et dans les 10 sites testés, il y avait le site d'Alcatel, qui n'était pas du tout intéressant pour eux. Le site de Puma, qui avait été regardé dans les 4 derniers sites, finalement, a été écarté. Et vous savez bien qu'à la fin, les 2 seuls sites qui ont été encore retenus, c'était soit le parc d'innovation, soit Brumath. Et il n'y avait plus possibilité de déroger à ça. À un moment, je pense qu'une entreprise qui veut s'implanter est souveraine dans son choix d'implantation. Ils ont choisi aujourd'hui d'aller à Brumath. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi en tirer les conséquences par rapport à la fois à notre volonté d'attractivité par rapport à la métropole. Et encore une fois, je le répète, nous avons transféré la compétence économique à la métropole. Nous n'avons pas de service au niveau de la ville d'Ilkirch propre à l'économie, et ce n'est pas nous qui signons des contrats pour des installations d'entreprises. Donc nous avons notre mot à dire, nous l'avons dit, hein, nous avons dit que nous étions candidats à l'installation à Ilkirch de cette entreprise. On voit bien que tout le monde n'était pas tout à fait unanime, dont acte. Mais en tous les cas, nous, à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente, on se bat pour, on essaye d'avancer le dossier. Je pense que heureusement qu'on s'est mis en marche sur ce dossier, parce que sinon, il nous aurait tout de suite échappé. On a réussi quand même à le faire étudier. Et ensuite, quand j'entends les histoires de prison, aujourd'hui, il n'y avait pas du tout question de prison. C'est quand même un dossier qui, aujourd'hui, n'est pas revenu, que certains dirigeants de l'État m'ont confirmé que ce dossier, pour le moment, n'était plus en questionnement sur le parc d'innovation. Donc voilà, on aura peut-être d'autres opportunités. On a quand même, il faut souligner, Biosynex qui va investir très massivement dans le parc d'innovation, dans une extension. Thermo Fisher qui va en faire aussi une. On a Alcatel qui est en train de terminer son nouveau site au niveau du parc d'innovation. Donc on a quand même un certain nombre de fleurons et d'entreprises qui continuent à investir. Mais c'est aussi aujourd'hui à la collectivité Eurométropole d'investir pour la viabilisation de ce secteur et que derrière on puisse implanter des entreprises, mais correctement. Parce que c'est vrai que quand une entreprise arrive, il faut quand même qu'il y ait un minimum, au moins les routes. Et là, il n'y avait même pas les routes dans la partie sud du parc d'innovation. Donc voilà pour ce dossier. En tous les cas, je vous remercie pour cette séance, cette dernière séance de l'année. Je vous propose de nous retrouver du coup le 28 janvier pour le vote du budget primitif et de passer d'agréables fêtes de fin d'année auprès de vos proches ou en famille, mais toujours dans le respect des règles sanitaires et de prendre soin de vous. Merci à tous, bonne journée.